Bonjour à toutes et tous. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je dois aujourd'hui utiliser la technologie pour lire mes notes parce que j'ai eu un petit problème d'impression. Donc aujourd'hui, j'utiliserai une tablette pour lire mes notes. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je ne suis pas trop fanatique de ce genre de mécanique pour la prédication et je me sens plus à l'aise avec des feuilles. Mais la parole du Seigneur ne dépend pas de la technologie qu'on utilise. C'est un peu bancal, mais ça devrait aller. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, à la toute fin du livre. Et j'aimerais que nous puissions lire ce matin les versets 10 à 31. Dans ce texte qui conclut le livre des Proverbes, c'est le roi Lémuel qui consigne par écrit les paroles, les enseignements que sa mère lui a donnés. Voici ce que sa mère lui a dit à partir du verset 10 à propos de l'épouse qu'il devrait rechercher. Heureux celui qui trouve une femme vaillante, une femme de valeur. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et elle les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse. Et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Voilà pour le texte que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Lorsque j'étais plus jeune, un jour, je discutais avec ma mère et je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on est venu à discuter du mariage et des relations avec les personnes du sexe opposé. Mais ma mère m'a dit, c'était après que j'ai connu diverses histoires qui étaient infructueuses, notamment parce que j'ai fréquenté des personnes qui ne se consacraient pas à l'Éternel, qui ne le connaissaient pas. J'ai donc discuté avec ma maman et elle m'a dit un jour, tu sais, tu ne seras jamais heureux tant que tu ne t'attacheras pas à quelqu'un qui aime aussi Dieu. C'était une phrase simple, il n'y avait rien de révolutionnaire, je pense que je l'ai entendu des dizaines de fois, mais c'était vrai. C'est le conseil que ma maman m'a donné. Elle m'en a donné d'autres, mais j'ai retenu celui-là. Et dans ce texte, nous voyons que la mère du roi lui a donné, elle aussi, des conseils sur le caractère de l'épouse à rechercher. Ce texte, parfois, il apparaît aux femmes un peu décourageant, parce qu'il apparaît trop difficile. Et qu'on dit, ah oui, bah, c'est bien beau, hein, c'est facile hein, d'être levé tôt, de se coucher tard, mais le mari, lui, bah, il semble bien dormir à un moment quand même, hein, lui. Et puis on est parfois un peu peut-être aigri, alors peut-être plus vous, mesdames, que nous, les hommes, puisque nous, si on a une épouse comme elle, eh bien, on est plutôt contents. Mais je crois que le Seigneur n'a pas mis ce texte dans l'Écriture pour que vous soyez gênés, aigris, agacés. Je pense que le Seigneur a mis ce texte pour nous encourager, nous, les hommes, à rechercher une femme qui ait ce caractère-là, mais aussi pour vous encourager, vous, mesdames, à développer ce même caractère dans votre vie. Et nous verrons ce matin deux domaines dans lesquels la sagesse permet de devenir une femme de valeur, afin de vous encourager, mesdames, à rechercher et à pratiquer la sagesse. Nous verrons tout d'abord que la femme de valeur peut progresser, peut voir la sagesse la faire évoluer dans le domaine de ses relations familiales. Et nous verrons ensuite eh bien, que la sagesse a aussi un impact pour la femme de valeur dans son travail, que ce soit un travail qu'elle fait à la maison ou que ce soit un travail plus ouvert sur l'extérieur que je qualifierais pour cette prédication d'un travail séculier. Les écrits de sagesse, ce sont des écrits qui existent pour nous aider à vivre les situations pratiques de la vie selon la façon dont Dieu veut qu'on les vive. Est-ce que vous connaissez ces livres de sagesse? Est-ce que vous savez les citer? Ce n'est pas un piège, c'est juste pour voir si vous arrivez à toucher du doigt quels sont ces livres. Marianne, tu disais l'Ecclésiaste, en tout cas j'ai entendu, c'est juste les Proverbes. Il y en a encore un qui est un livre important aussi de sagesse, c'est Job, qui est un livre aussi qui enseigne la sagesse. Alors bien entendu, toute la Bible nous enseigne une certaine sagesse, mais il y a des livres qui en particulier sont tournés vers l'enseignement de la sagesse, et le livre des Proverbes notamment était destiné à être enseigné à ceux qui auraient une position dans la société en tant que roi, en tant que dirigeant de la ville, mais c'était aussi destiné à tout Israélite, quelle que soit sa condition. Grandir en sagesse, c'est apprendre à vivre de plus en plus chaque situation de notre vie selon la volonté de Dieu. Discerner ce qu'il attend de nous et comment il veut que nous agissions et réagissions. Ainsi, le livre des Proverbes, il a pour but d'appliquer la sagesse de Dieu à divers domaines de la vie courante, de la vie pratique, notamment dans des domaines tels que les relations familiales, le couple, l'amitié, le travail et encore beaucoup d'autres domaines. Ce qu'on a lu ici, ce texte, c'est un poème. Et en hébreu, c'est plus visible, c'est plus palpable en hébreu qu'en français, parce qu'en hébreu, eh bien, chaque vers de ce poème est en fait une lettre de l'alphabet hébreu. Et du coup, ce texte est une éloge, une ode, finalement, à la femme de valeur qui laisse la sagesse de Dieu la transformer. Et ce poème répond notamment à cette question, qu'est-ce que ça signifie d'être une femme de valeur ? Et nous allons voir tout d'abord que être une femme de valeur, c'est mener une vie où les relations familiales sont touchées par la sagesse de Dieu. Et un des premiers effets de la sagesse, c'est qu'elle transforme les relations familiales avec l'époux. Le verset 10 dit que celui qui trouve une femme vaillante, eh bien, il est heureux. C'est une béatitude d'avoir une femme vaillante à ses côtés, une femme de valeur. Celui qui est marié à une telle femme est heureux. C'est une bénédiction de la part de Dieu d'avoir une telle épouse. C'est un cadeau de la part de Dieu. Un peu plus tôt, dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, au verset 22, il est dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, si on trouve la bonne femme. Mais aussi, et parfois on oublie le dernier passage de ce verset, il est dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de Dieu ». Dieu ne serait pas obligé de nous donner une femme de valeur, une femme bienveillante, une femme sage, une femme aimante, dévouée. C'est une grâce, c'est-à-dire c'est un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir avoir une épouse qui est comme cela. Et j'aimerais encourager aussi ceux qui peut-être souhaiteraient se marier à rechercher une femme qui soit telle que cette femme, à rechercher une femme qui veut grandir dans la sagesse, qui veut toujours plus être attaché à Dieu et qui veut grandir dans cette relation à Dieu, qui veut appliquer la sagesse à sa propre vie. Parce que agir comme ça, c'est montrer que vous êtes un homme qui lui aussi est plein de sagesse. Ces conseils qui ont été donnés au roi Lemuel par sa mère, eh bien, ils sont aussi pour nous, si nous ne sommes pas encore mariés et que nous souhaitons nous marier. Cet homme, celui qui trouve une telle épouse, eh bien, il peut avoir confiance en elle. Il n'a pas peur de ses actions, il n'a pas peur de ce qu'elle va faire quand il ne sera pas là. Et là, c'est un texte qui s'adresse à celui qui va être un roi, qui va diriger un peuple. il faut pouvoir diriger en ayant la tête reposée. On ne peut pas bien diriger un peuple, un pays, si on doit toujours se demander qu'est-ce que mon épouse est bien en train de fabriquer. Tout comme on ne peut pas aller au travail l'esprit tranquille ou faire une activité en dehors si on n'a pas confiance dans son épouse. Mais pour un homme qui trouve une telle épouse, il y a du repos dans la relation avec son épouse. Il se trouve reposé de savoir comment elle est. Et on peut voir notamment, je le développerai un peu plus tout à l'heure, que eh bien, l'épouse, qui est comme cette femme qui est décrite ici, elle fait fructifier les ressources de sa maison. Le mari peut être en paix quant aux actions de son épouse. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le bien de son foyer, pour le bien de son mari, pour le bien de ses enfants. Et en préparant ce message, j'ai appris que dans l'Antiquité, eh bien, l'homme qui n'avait pas confiance en sa femme, il pouvait en fait faire fermer dans un coffre-fort son argent pendant qu'il partait de la maison pour pas que son épouse en fasse n'importe quoi. Ça nous fait sourire aujourd'hui. Mais ça prouve bien que le Seigneur montre qu'une personne qui est transformée par la sagesse qui vient de la parole de Dieu, eh bien son mari, il ne va pas avoir cette crainte qu'elle fasse n'importe quoi. Il ne va pas avoir cette crainte qu'elle dilapide l'argent du foyer, qu'elle l'utilise n'importe comment pour acheter n'importe quoi d'inutile. C'est un petit peu, finalement, pour nous aussi de se dire, ben, est-ce que lorsque je m'en vais, est-ce que je suis en paix si je laisse ma carte bleue, ma foi, elle a bien une couleur, cette carte. Est-ce que je suis en paix si je laisse ma carte bleue et mon chéquier à la maison ? Certaines personnes étaient très étonnées que je laisse ma carte bancaire à Chantal avant qu'on soit mariés, quand on était fiancés. Alors bon, il n'y avait pas grand risque. J'étais étudiant à l'Institut biblique, je n'étais pas extrêmement riche. Mais je n'ai jamais eu de crainte qu'elle fasse n'importe quoi. Et même maintenant, je n'ai aucune crainte de ce qu'elle peut faire. Parce que je sais aussi que Dieu la travaille et que Dieu la transforme et que la sagesse grandit aussi en elle. Et du coup, je n'ai pas peur qu'elle revienne avec des sacs chargés de plein de trucs inutiles en disant « J'ai dépensé 500 euros, c'est génial, n'est-ce pas ?» Eh bien non, ce n'est pas génial. Mais je n'ai pas du tout de crainte de ce genre-là. Je n'ai pas peur de ces choses-là. Et celui qui marie une femme, qui épouse une femme telle que cette femme de valeur, n'a pas peur non plus de ces choses-là. Ça tranche vraiment ce qui est dit ici avec l'attitude des hommes de l'époque dans l'Antiquité. L'homme qui trouve une telle épouse est béni par elle. Elle lui fait du bien et non du mal. Le texte le précise, hein, il le dit dans ces termes-là. Cette épouse fait pour son mari du bien et non du mal. Au verset 3, juste avant, il est dit « Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. » La mère du roi Lemuel ne lui dit pas juste « Ah ben, toutes les femmes, c'est des femmes de valeur qui ont de la sagesse. » Elle lui dit aussi, il y a des femmes qui sont dangereuses, qui peuvent te perdre, qui ne recherchent pas ton bien, qui n'ont pas la sagesse, qui aussi n'auront pas une bonne gestion de l'argent. Il y a de nombreux proverbes dans ce livre qui mettent en garde contre les femmes qui sont querelleuses, contre les femmes qui sont médisantes, contre celles qui sont dénuées de sagesse, celles qui cherchent leur propre intérêt. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça, elles existent. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on s'éloigne de ces personnes-là et qu'on cherche une personne qui est comme cette femme qui est décrite ici. Et pour vous, mesdames, le Seigneur vous encourage aussi à rechercher, à avoir ce caractère-là, à ce que Dieu imprime, applique en vous, par la lecture de la parole et par l'œuvre de l'Esprit, cette sagesse pour être cette femme. Le mari est capable de reconnaître la valeur de son épouse. Il est même dit quelque chose d'encore plus important. Il est dit, eh bien, qu'il en fait l'éloge. Il dit ses louanges. Il exprime ce qu'il pense de sa femme. Il exprime ce qu'il ressent de son épouse. Il le dit à d'autres. Il ne le garde pas non plus simplement pour lui. Il dit aux autres combien il aime son épouse, combien elle en est fière, combien elle est bonne envers lui et envers sa famille et ses enfants. Il reconnaît, le mari, que il y a bien des filles qui ont de la valeur. Il sait bien voir qu'il n'y a pas juste son épouse qui a de la valeur. Et il reconnaît bien que les personnes autour de lui, eh bien, dans ces personnes, il y a des femmes et que ces femmes aussi ont de la valeur. Mais il va dire, toi, tu les surpasses toutes. Parce que le regard normal que l'on est appelé à poser sur notre épouse, c'est un regard qui nous dit que notre épouse, c'est la meilleure personne pour nous, c'est la meilleure personne qu'on pouvait vouloir pour nous et que le Seigneur pouvait aussi vouloir pour nous. Et je ne pense pas que ce soit normal de poser le regard sur une femme. Quand je dis poser le regard, je n'entends pas quelque chose de déplacé. Je dis juste de considérer une autre personne et de se dire « elle est quand même mieux que mon épouse ». Je pense que ce n'est pas normal. Moi, en tout cas, si ça m'arrive, je demanderai pardon au Seigneur parce que je ne pense pas que ce soit normal que je puisse avoir une telle pensée. Et messieurs, j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour penser à ces questions suivantes. Est-ce qu'on considère que notre épouse est supérieure à toutes les autres ? Est-ce que on arrive à considérer à leur juste valeur notre épouse et toutes ses actions ? Est-ce qu'on sait exprimer à notre épouse ce qu'on pense d'elle ? Est-ce qu'on sait lui dire ? Ce n'est pas toujours facile de dire ouvertement les choses qu'on pense, même quand c'est des choses positives. Parfois, notre caractère ou autre font que c'est des fois un peu difficile. Moi, je ne suis pas toujours très doué à l'oral, alors je préfère écrire. Est-ce qu'on reconnaît que le fait d'être marié avec notre épouse, c'est une grâce que Dieu nous a faite ? Je crois qu'on doit réfléchir à ces questions en tant que mari, en tant qu'époux, pour juger aussi où est-ce que j'en suis dans ma relation avec mon épouse. Est-ce qu'on encourage notre épouse dans la recherche et dans la mise en œuvre de la sagesse ? Est-ce qu'on est un mari qui encourage notre épouse à lire la parole, à l'appliquer, à vivre selon ce que Dieu veut ? Est-ce qu'on est aussi capable de dire là, peut-être, que ce n'était pas tout à fait ce qu'il aurait fallu ? Je pense que peut-être tu aurais pu faire ça. Est-ce qu'on est des bons conseillers aussi ? Comment est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu transforme notre relation aussi avec notre épouse ? Est-ce qu'on est prêt à fournir des efforts, peut-être, pour que certaines choses aillent mieux ? Est-ce qu'on a envie de pouvoir faire, nous aussi, l'éloge de notre épouse ? Je vous laisse ces questions pour que vous y réfléchissiez. C'est déjà un premier morceau, je dirais, d'application de ce message pour nous les hommes. Mais la sagesse, elle ne transforme pas simplement la relation que l'épouse elle a avec son mari, elle transforme aussi la relation que l'épouse elle a avec ses enfants, donc la mère avec ses enfants. Et on peut voir notamment qu'elle s'occupe des besoins matériels de ses enfants. Elle fait en sorte qu'ils manquent de rien, ils ont des habits. Pardon, ils ont des habits, ils ont des couvertures, en hiver ils n'ont pas froid, ils ont de la nourriture, elle va chercher loin, il est dit, hein, elle est un peu comme un navire marchand, elle va chercher loin des vivres et elle les ramène dans sa maison. Elle prend soin d'eux, elle s'occupe d'eux, elle les bénit par des actes pratiques. Et les enfants, ils savent reconnaître le travail de leur mère et la grâce que Dieu fait à leur mère. Ils disent qu'elle est bienheureuse. Et ça fait écho finalement au heureux celui qui trouve une femme vaillante, bien heureuse finalement, et cette femme vaillante, cette femme de valeur. Les enfants reconnaissent que leur mère est une mère qui a de la valeur. Je ne sais pas quel type de pomme c'est, cette maman, mais elle a de la valeur. Et les enfants savent le voir, ils le reconnaissent, ils le disent, et ils disent qu'elle est bien heureuse dès le lever. Moi, ça m'interpelle, parce qu'en général, le matin... Vous pouvez demander à Chantal, quand je me réveille, c'est difficile de discuter. Il faut me laisser un petit peu du temps pour que je me réveille bien. Mais cette femme, dès le matin, ses enfants disent qu'elle est bien heureuse. Ça se voit dans son caractère, dans sa manière d'être, sa manière de faire. Et l'application de la sagesse à ses relations familiales, ça ne va pas juste bénir les autres personnes, mais ça va aussi la bénir elle. On est mieux, on est plus heureux quand notre situation familiale est bonne, quand on s'entend bien avec notre époux, avec notre épouse, avec nos enfants. C'est plus agréable de vivre la vie de famille comme ça. C'est plus agréable de vivre la vie de famille quand on est dans une bonne relation avec ceux qui nous entourent, quand on peut les bénir et qu'eux nous bénissent. Et là, je voudrais parler un peu plus aux enfants. Cette année, je vous ai souvent parlé, hein. Mais je pense que la Bible est aussi pour vous. Et j'aimerais vous dire, comment est-ce que vous, en tant qu'enfant, comment est-ce que vous considérez votre mère et son travail dans la maison ? Ah, ça peut peut-être faire sourire. Mais si vous voulez être certain que votre mère fait quelque chose, demandez-lui de rien faire pendant une semaine. Mais vous pouvez tenter, hein. On a besoin, en tant qu'enfant, même quand on est un grand enfant, on a besoin d'apprendre à dire merci pour ce que nos parents font. Moi, mon père, parfois, fait encore des choses pour moi, alors que j'ai 31 ans. Mais je le remercie. Et si ma mère était là, je suis sûr qu'elle me donnerait encore des conseils et que, autant qu'elle pourrait, elle ferait pour moi des choses pratiques et je la remercierais pour ça. Est-ce qu'on arrive à avoir de la reconnaissance pour tout ce que notre maman, elle fait dans la maison ? Et aussi tout ce qu'elle fait quand elle sort de la maison pour faire des choses pour nous. Et c'est vrai que si notre mère faisait plus rien, bah on verrait tout ce qu'elle fait en réalité. Je peux vous dire que quand ma mère est décédée, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'elle faisait. J'ai dû réapprendre plein de choses. J'ai appris à cuisiner. C'était pas glorieux la première fois que j'ai cuisiné. Hein. J'ai appris ça. J'ai appris à faire la vaisselle. J'ai appris que... Enfin, pas, j'ai appris à faire la vaisselle, j'exagère. Hein. Je faisais la vaisselle, mais je me suis rendu compte que ben, si je me lève et que je mets mes affaires dans l'évier, quand je vais revenir, elles seront toujours dans l'évier si je ne les lave pas. Avant, ce n'était pas comme ça. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait toute une sagesse que ma mère avait de par sa relation avec le Seigneur, dont je bénéficiais avant et dont je ne peux plus bénéficier aujourd'hui. Encore que ma mère était quelqu'un qui écrivait beaucoup tout ce qu'elle réfléchissait sur la parole. Du coup, j'ai beaucoup de carnets où elle a écrit ses notes et je peux les lire si je veux aussi. Donc, j'ai quand même quelque chose de cette sagesse qu'elle a développée avec le Seigneur. Mais les enfants, moi, j'aimerais vous encourager à ce que vous puissiez vraiment vous dire ben, qu'est-ce que maman, elle a fait pour moi aujourd'hui ? Et est-ce que j'ai dit merci pour ce qu'elle a fait ? Dire merci, c'est pas juste réservé à la fête des mères dans 2 semaines. C'est tous les jours qu'on doit remercier pour ce que notre mère fait, pour ce que notre père fait. Et nous aussi, en tant que parents, on peut dire merci à nos enfants pour ce qu'ils font. Mais est-ce que j'arrive à regarder ce que fait ma maman et à lui dire « Ben, je te remercie d'avoir fait ça pour moi ». Peut-être, parfois, quand on est encore un jeune enfant, on a l'impression que c'est un dû, c'est normal qu'elle fasse ça. Maman, elle est à la maison, elle va faire quoi si elle ne fait pas ces trucs-là ? Elle aura bien d'autres choses qu'elle pourrait faire. Quand Chantal est partie l'année dernière à la retraite des CCF, je suis resté 4 jours tout seul avec Zoé. J'ai dit au Seigneur, je suis désolé pour toutes les fois où j'ai cru que Chantal, des fois, vraiment, elle ne mettait pas de bonne volonté à faire des choses, parce que c'est plutôt moi qui ne mettais pas de bonne volonté à voir tout ce qu'elle faisait. Parce que j'étais vraiment fatigué après 4 jours tout seul avec Zoé. Et je pense que cette année, je le serai aussi parce qu'elle bouge encore plus. Mais on peut voir ici que lorsque la sagesse de Dieu est appliquée dans les relations familiales, bien, ça apporte la bénédiction dans les relations conjugales entre l'époux et l'épouse, mais ça apporte aussi la bénédiction avec les enfants. L'épouse, la mère, elle est une bénédiction pour son mari ou pour ses enfants, mais elle est aussi également bénie en retour par le fait qu'elle met en œuvre la sagesse de Dieu, que son mari voit tout ce qu'elle fait, que son mari le dit, il ne le garde pas pour lui, il l'exprime, il lui fait savoir qu'elle a plus de valeur pour lui que toutes les autres femmes. Et ses enfants disent « Notre mère, elle est bien heureuse » et ils reconnaissent tout ce qu'elle fait. Et c'est vrai, la mère fait beaucoup de choses dans son foyer. Ce texte nous montre tout ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle travaille pour son foyer. Mais on voit aussi que son œuvre, son travail va au-delà de son foyer. Elle a aussi une activité qui, finalement, est autre que juste le travail domestique. Le proverbe 31 nous présente une femme qui est résolument active. Je ne pense pas qu'on puisse douter que cette femme est une femme active. Et dans le travail domestique, il nous est dit qu'elle se lève tôt, quand il fait encore nuit, c'est ce qui nous est dit au verset 15, et qu'elle travaille jusque tard dans la nuit. Sa journée de travail est très longue, elle fait beaucoup de choses. Alors l'idée, mesdames, ce n'est pas de vous mettre la pression pour que vous vous leviez à 4h du matin et que vous vous couchiez à minuit. Ce n'est pas à moi de vous dire vos horaires de lever et de coucher. Mais le but de ce proverbe, le but de ces choses-là, c'est de montrer que, eh bien, une femme de valeur, c'est une femme qui n'est pas une femme paresseuse. Ce n'est pas une femme qui traînasse, qui ne fait rien de ses journées d'utiles. Et si une fois, de temps en temps, vous aimez faire une grasse matinée, je ne crois pas non plus que ce soit une chose mauvaise. Le repos est bon et le Seigneur veut que nous nous reposions parce que notre corps en a besoin. Mais en tout cas, ici, eh bien, l'idée, c'est de dire... Il ne faut pas être comme les femmes querelleuses, les femmes qui sont mauvaises, les femmes qui recherchent que l'argent, qui sont paresseuses, qui attendent que leur mari fasse tout. Il y a aussi quelque chose à faire. Et faire ces choses-là, c'est bénir sa maison aussi. Et c'est attendre, et c'est faire ce que Dieu attend de vous aussi, quand vous le faites. Alors j'aurai aussi, la prochaine fois que je prêche, une prédication pour les hommes. Parce que je ne veux pas non plus que vous pensiez que j'ai juste à vous dire des choses à vous, mesdames, et que nous, on profite de tout ce que vous ferez. Il y a aussi des choses à dire pour les hommes, mais ce sera la prochaine fois. Elle s'occupe de la nourriture, c'est ce qui nous est dit au verset 14 et 15, et elle s'occupe aussi de confectionner des vêtements pour sa famille. Elle gère ses servantes et elle leur donne des instructions. Ça, c'est sans doute pas quelque chose qui nous concerne aujourd'hui, pas trop spécialement. Mais on peut voir aussi qu'elle ne se met pas les doigts de pied en éventail en attendant que les servantes fassent tout. Elle leur donne des directives, elle leur dit quoi faire, elle gère sa maison, elle s'occupe de sa maison. Mais elle ne fait pas juste des choses de cet ordre-là. Son activité, son œuvre, ça ne se résume pas juste à ce travail que j'appelle un travail domestique dans la maison. On nous montre que la femme de valeur, elle a aussi une activité qui est extérieure à sa maison et qui rapporte aussi quelque chose au foyer, qui rapporte de l'argent au foyer. Elle achète un champ et elle y plante une vigne, elle prend des initiatives, elle sait investir intelligemment l'argent qu'il y a dans le foyer. Alors bien entendu, vous me direz peut-être, bon, mais moi, si demain j'achète un champ et que je plante une vigne, mon mari va me regarder bizarrement quand même. Mais il faut recontextualiser, c'était une activité de l'époque. Mais qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a des rentrées d'argent? Est-ce que je les dilapide? Est-ce que j'en fais n'importe quoi? Ou est-ce que j'en fais quelque chose d'utile? Est-ce que je sais les utiliser d'une manière qui sera bonne pour ma famille? Le proverbe nous dit qu'elle a du succès dans ses entreprises. Il nous est dit « ses affaires marchent bien ». C'est au verset 18. Et il nous est montré aussi qu'elle travaille de ses mains et qu'elle vend le produit de son travail, notamment des habits et des ceintures. Elle est active dans tous les domaines. Elle n'est pas simplement cantonnée au domaine de son rôle de mère au foyer, et ça n'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. Ma mère était une mère au foyer et je ne bénirai jamais assez Dieu pour ça. Du coup, on peut voir que ce n'est pas juste ce travail de mère au foyer qui la concerne, mais qu'elle a aussi une activité à côté, aussi en plus, mais que c'est son activité de mère au foyer et son activité qui se porte vers l'extérieur. Toutes les deux, elles bénissent le foyer. Toutes les deux, elles bénissent le foyer, les enfants, la maison, et sans doute aussi les serviteurs et les servantes. En appliquant la sagesse à sa vie pratique, la femme de valeur, elle est épanouie. À aucun moment, on a l'impression qu'elle est malheureuse. On a l'impression qu'elle fait tout avec joie et d'une certaine manière que tout réussit. Alors il y a bien sûr sans doute des choses qui doivent ne pas réussir dans sa vie. Mais on peut voir que lorsqu'on cherche à appliquer la sagesse et à vivre selon elle, eh bien le Seigneur aussi bénit en retour le fait de vouloir vivre comme lui s'attend à ce qu'on vive. Le travail domestique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, c'est montré comme quelque chose qui est vraiment bon. C'est une bénédiction pour ceux qui entourent la femme, mais aussi pour elle. Le travail manuel, ici, il est mis en valeur. Aller faire les courses, préparer à manger, s'occuper d'avoir des vêtements chauds, d'avoir des couvertures et tout ça, dans notre société d'aujourd'hui, c'est rébarbatif. On ne veut pas le faire. Bah, si tu es mère au foyer, c'est qu'en fait, tu n'étais juste pas capable de faire autre chose. Ce texte, il nous dit ici, cette activité-là, elle dépend aussi de la sagesse de Dieu. Elle dépend aussi de l'œuvre de l'Esprit. Pour bien gérer tout ce que fait cette femme, il faut être animé par la sagesse de Dieu. Ce n'est pas possible sans ça. Le travail manuel, ici, il est mis en valeur. Il n'est pas réducteur ou réservé à des gens qui n'auraient rien pu faire d'autre. Et je crois qu'on a besoin de se rappeler qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, être une femme au foyer, décider de s'occuper de ses enfants plutôt que de travailler à l'extérieur, eh ben, ce n'est pas mauvais. C'est pas réducteur. C'est pas signe qu'on est incapable de faire autre chose. Et je crois qu'on doit vraiment le dire. Parce que je crois que les pensées de l'extérieur, les pensées du monde viennent aussi parfois dans l'Église, elles s'insinuent, et finalement on développe une manière de penser qui essaye d'allier la Bible et les pensées du monde, mais ça fonctionne pas comme ça. Le monde nous dit que oui, pour avoir de la valeur, il faut être épanoui, avoir un bon salaire, etc., etc. La parole nous dit, eh bien, dans le travail manuel, dans la maison, dans le travail domestique, pour son mari, pour ses enfants, il y a quelque chose qui est vraiment foncièrement bon et béni par Dieu. Et il n'y a aucune honte à vouloir dire, moi, je veux être mère au foyer. Être une mère au foyer, ben, c'est un emploi à plein temps. Comme je disais avant, demandez éventuellement à votre femme de rien faire pendant une semaine, vous verrez tout ce qu'elle fait, si vous ne vous en rendez pas trop compte. Être mère au foyer, c'est un vrai travail. Ma mère était toujours très énervée quand on lui demandait « qu'est-ce que vous faites comme travail ?» et qu'elle disait « je suis mère au foyer » et qu'on lui disait « ah, alors vous ne travaillez pas ?» Elle disait « si, je ne rapporte peut-être pas d'argent, mais je travaille. » Et c'est vrai. Être mère au foyer, peut-être que ça ne rapporte pas forcément d'argent, mais c'est un vrai travail. Et là, on peut voir que les deux ne sont pas incompatibles. Tite 2, verset 5, rappelle aux femmes plus âgées de l'Église. Alors là, moi, je ne cite pas de nom, je ne vise personne, mais les personnes qui ont développé une sagesse plus grande parce qu'elles sont chrétiennes depuis plus longtemps ont aussi un rôle à jouer pour les plus jeunes. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien de se dire qu'on peut compter sur ceux qui nous précèdent. Et Tite rappelle aux femmes plus âgées de l'Église qu'elles sont appelées à conduire les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure et à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari, ce qui correspond aussi à ce que Paul écrit aux Éphésiens. Le travail domestique, il fait partie des activités normales de l'épouse d'après la Bible. Je ne dis pas que ça veut dire qu'un homme ne peut pas toucher un aspirateur ou une éponge, mais je crois qu'on doit lutter contre cette pensée du monde qui nous dit le travail domestique de la maison et tout, non, c'est mauvais, c'est pas bien, ça empêche de s'épanouir, c'est un truc de l'ancien temps, c'est le patriarcat, etc., le féminisme. Non, c'est faux. Ce texte nous prouve qu'on peut, en tant que femme, avoir un vrai rôle positif dans sa famille et en même temps qu'on peut aussi avoir une activité portée sur l'extérieur qui bénit la famille. Et ça, il faut le dire. Le rôle de l'Église, c'est de rappeler de manière saine le rôle de la mère et de l'épouse. L'idée de la parole de Dieu, ce n'est pas d'enfermer la femme à la maison. En disant ça, c'est ton domaine. Si tu sors, si tu passes la porte, c'est fini. C'est que ton mari qui fait tout, qui décide tout, et toi, tu n'as rien à dire. La pensée mondaine, elle a déplacé la pensée du monde, qui n'est pas la pensée biblique, elle a déplacé la valeur de l'épouse et de la mère à son activité professionnelle, à ses diplômes, à sa rémunération, à sa capacité à se débrouiller toute seule. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible, elle appuie fortement sur le rôle béni de la mère et de l'épouse qui s'occupe de son foyer, de son mari et de ses enfants. Et en même temps, la Bible, elle ne condamne pas une certaine activité portée sur l'extérieur et qui rapporte de l'argent éventuellement. Il faut bien comprendre aussi que dans ce texte, il y a aussi un aspect culturel qui rentre en compte. Les femmes, à l'époque, elles se mariaient très tôt, assez jeunes. Pas toujours avec une personne qu'elles choisissaient non plus, parce qu'il y avait aussi des mariages entre familles, etc. Mais à cette époque, les femmes se mariaient relativement tôt. Et du coup, c'était normal aussi pour elles de s'occuper de la vie de famille et du foyer. Mais ici, le livre des Proverbes dit « c'est pas parce que c'est culturellement normal que c'est pas ce que Dieu veut ». Et surtout, on se rend compte ici que la volonté de Dieu transcende ce qui est culturel. Et que même s'il y a une part de culturalité ici, eh bien la parole de Dieu dit « c'est pas bon parce que c'est culturel, c'est bon parce que c'est la Bible qui le dit ». Et que la Bible montre comment il faut que ce soit vécu pour que ça soit vraiment bon. Si c'était que culturel, effectivement, il risquerait d'y avoir des dérives dans ces choses-là. Mais c'est pas juste quelque chose de culturel. Le Seigneur trouve que c'est bon d'être chez soi, de s'occuper de son mari, de s'occuper de son épouse aussi, si on est le mari, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa maisonnée. C'est une chose qui est foncièrement bonne. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes, elles se marient plus tard, elles font des études qui sont plutôt longues. La perspective première, aujourd'hui, je pense, pour une jeune femme, avant d'être mariée, ben, c'est plutôt celle de faire des études et d'avoir un travail, plutôt que d'attendre en gémissant qu'un homme veuille bien d'elle. Alors forcément, eh bien, ça change aussi un peu quelque chose dans la manière dont on vit l'Évangile. Oui, on se forme, on a des capacités, on est capable, en tant que femme, d'avoir un bon travail, des postes à responsabilité, d'avoir une bonne rémunération. C'est vrai, c'est possible, tout à fait. Mais par contre, ça ne devrait jamais déséquilibrer la vie de famille et la vie professionnelle. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps peut-être où quand les enfants sont jeunes, l'épouse est peut-être plutôt appelée à rester à la maison. J'en fais pas une vérité que je vais vous asséner, mais c'est ce que je pense, et c'est plutôt mon expérience à moi aussi, qui est courte, certes, mais je pense que c'est bon pour les enfants d'avoir leur mère avec eux. En tout cas, il me semble au moins jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Je ne dis pas que les femmes qui travaillent aujourd'hui et qui mettent leur enfant dans une crèche ou quoi sont des mauvaises mères, parce que je ne le crois pas du tout. Je partage mon expérience, ma pensée. Pour une jeune femme qui n'est pas mariée, c'est normal qu'elle ait besoin de pouvoir subvenir à ses besoins. Ce n'est pas choquant qu'une jeune femme non mariée ait envie de travailler, et même qu'une femme mariée puisse avoir envie de faire des choses, ce n'est pas non plus gênant. Fut un temps, si une jeune femme ne voulait pas rester à la maison avec ses enfants, c'était vu comme anormal. C'était pas logique, c'était pas bien. Il me semble que ce texte met quelque chose en perspective. C'est qu'il est capable de concilier deux activités, mais que l'activité professionnelle doit jamais empêcher la vie de couple et la vie de famille d'être normale. Il me semble que si la vie professionnelle empêche la vie de famille d'être ce que Dieu veut, alors il y a un problème du côté de la vie professionnelle, pas de la vie du couple, pas de la vie de famille. Si je travaille tellement que je ne vois pas mes enfants, le problème, ce n'est pas mes enfants. Le problème, c'est la manière dont je gère mon travail par rapport à ma famille. Chantal et moi, on s'est rendu compte que c'était impossible que Chantal continue son ministère auprès de Juifs pour Jésus, parce que sinon, elle ne verrait jamais Zoé. Et ce n'était pas ce qu'on voulait. Quand on s'est préparé au mariage, dans le questionnaire de préparation au mariage qu'on a rempli, on a dit qu'on ne voulait pas mettre notre enfant dans une crèche. Pas parce que c'est mauvais ou quoi que ce soit, et encore une fois, pas parce que les gens qui font ça sont des mauvais parents ou quoi, mais simplement parce que notre conviction à nous, c'était que le Seigneur voulait qu'on s'occupe de notre enfant. Et le Seigneur nous a rappelé aussi ça, quand on s'est retrouvé devant l'évidence que si Chantal continuait ce ministère, ça ne serait pas possible qu'on élève correctement Zoé. Du coup, vous le savez, on a prié le Seigneur, on en a parlé aussi autour de nous, avec Roger notamment et d'autres. Et le Seigneur nous a vraiment donné cette conviction que Chantal pouvait arrêter le ministère à ce moment-là, parce que le Seigneur l'appelait à un autre ministère, avec moi, auprès de vous, et qui permettrait aussi à Chantal de s'occuper de Zoé. Chantal s'occupe bien de la maison. Et en même temps, elle met aussi tout son cœur au travail pour le Seigneur dans l'Église. Il faut un équilibre. Il y a un équilibre qui est nécessaire, qui est vital, entre la vie de famille et l'activité professionnelle. Et jamais l'activité professionnelle devrait prendre le pas sur le rôle de mère, le rôle d'épouse ou sur la vie de famille. Et je vous le dis en venant d'une famille où je pense que toute mon enfance, j'ai connu mes parents ayant des problèmes d'argent. Et à chaque fois qu'ils en parlaient, ma mère disait « je n'irai pas travailler parce que je veux m'occuper de mes enfants ». Et le Seigneur a toujours béni cette décision. Je n'ai pas toujours eu des Nike au pied, un iPhone dans les mains ou un survêt Adidas, mais j'étais heureux parce que ma mère était là et que je n'ai jamais été tout seul. Ça ne veut pas dire que demain, il faut que toutes les femmes de l'Église plaquent leur travail. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend aussi des décisions qui vont dans le sens de ce que veut le Seigneur bénit aussi en retour. Il n'y a pas de honte à aimer son travail, à être épanoui dans son travail, etc. Mais si ça nous empêche d'être épanoui dans notre famille, de remplir le rôle de mère, d'épouse, et puis de père aussi, et d'époux, il faut repenser à ces choses-là. Il faut se mettre à l'écoute du Seigneur, lui demander de la sagesse, lui demander qu'est-ce que toi tu veux que je fasse dans cette situation. Parce que je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment je fais? Aujourd'hui, c'est possible, tout comme ça l'était à ce moment-là, c'est possible d'être au foyer, de bien s'occuper de ses enfants, de son mari, mais aussi d'être épanoui dans ses autres activités, dans les passions, dans les choses qu'on aime faire. C'est possible. Il y a aussi un temps pour tout. Quand les enfants sont petits, c'est peut-être moins possible que plus tard, quand ils sont plus grands. Mais je crois que le Seigneur peut nous aider à accepter la situation telle qu'elle est quand on la vit. C'est possible d'être heureuse et épanouie en étant mère, en s'occupant de ses enfants, en s'occupant de son foyer, en s'occupant de son mari, et aussi en ayant à côté des choses qu'on aime faire. C'est possible, je pense. En tout cas, il ne me semble pas que ma propre épouse soit malheureuse. Donc je pense que c'est possible. En tout cas, j'encourage chacun d'entre nous, chacune des familles, chacun des couples ici, à prendre du temps pour dire au Seigneur où est-ce qu'on en est entre vie de famille et vie professionnelle. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on fait ce que tu veux? Et si on ne fait pas ce que tu veux, est-ce que tu voudrais qu'on fasse autre chose? Et si oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense qu'on a besoin de prendre du temps et de s'arrêter pour ces choses-là. C'est important. Et pour vous qui êtes jeunes encore, qui n'êtes pas encore mariés, qui êtes peut-être fiancés ou quoi, réfléchissez aussi déjà à ces questions-là. Pour ne pas être pris de court le jour où vous serez mariés. C'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on veut vivre avec le Seigneur. L'argent, ça peut vite devenir un frein quand on veut répondre à la volonté de Dieu. J'aimerais bien plus m'occuper de mes enfants. Mais si j'arrête de travailler, j'aurai moins d'argent. Je ne sais pas trop, Seigneur. Hein. Le deal n'a pas l'air extraordinaire. Hein. Il l'est, pourtant. Il l'est. Et pour être pleinement transparent avec vous, je ne le dis pas d'une manière comme ça, légère. Hein. On peut perdre de l'argent et être heureux parce qu'on fait ce que Dieu veut. Chantal et moi, on a perdu 1300 euros quand Chantal a arrêté de travailler avec Juifs pour Jésus. Je pense que je suis plus heureux maintenant que si Chantal continuait de travailler et que je ne la voyais jamais et que Zoé ne la voyait jamais. Je ne vous dis pas des chiffres comme ça pour vous épater ou quoi, je m'en fiche. Vraiment, hein. Ce n'est pas ce que je recherche. Je ne veux pas du tout vous épater ou quoi parce qu'il n'y a rien d'épatant. La seule chose épatante, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre correctement avec 1300 euros de moins parce qu'on a décidé qu'on ferait ce que Dieu voulait qu'on fasse. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un budget moindre, eh ben, on est forcément dans la volonté de Dieu. Hein. Je pense que Dieu il permet aussi à des familles chrétiennes d'avoir des bons revenus et c'est bien aussi parce que ça permet de bénir ceux qui en ont moins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais puissions-nous vraiment nous remettre devant le Seigneur et dire « qu'est-ce que tu veux ?» Est-ce que c'est avec sagesse que je mène ma vie professionnelle et ma vie de famille? Ou bien est-ce que tu voudrais qu'il y ait quelque chose qui change? Et si le Seigneur veut qu'il y ait quelque chose qui change, il fera changer ça et il vous accompagnera dans toutes les étapes de ce changement. Je le vois tous les jours, la bonté de Dieu envers nous. La sagesse de la Bible, elle doit nous tourner vers l'application de la volonté de Dieu dans nos vies, dans les relations de famille, dans le travail, qu'il soit professionnel ou qu'il soit domestique. C'est vrai, ce poème pourrait nous paraître, ou en tout cas vous, mesdames, déstabilisant, décourageant. En réalité, le Seigneur a mis ce poème dans son écriture pour dire « Vous pouvez être ce genre de femme. » C'est possible. Et ce n'est pas juste que vous pouvez être ce genre de femme, c'est que Dieu veut que vous soyez ce genre de femme. C'est ce que Dieu désire pour vous, parce que ce sera bon pour vous. Ce sera bon pour vos enfants, pour votre mari, pour votre famille, ce sera bon pour l'Église aussi. Ce qui fait la valeur d'une femme dite de valeur, c'est la sagesse de Dieu qui l'anime et qui la transforme jour après jour. La sanctification, c'est-à-dire le fait de devenir toujours plus semblable à Jésus, ça passe aussi par le fait de grandir en sagesse. Jésus, c'est la sagesse incarnée. Il a dit lui-même, la reine de Saba, elle est venue pour voir la sagesse et les richesses de Salomon, mais ici, il y a plus que Salomon. Parce que lui est bien plus sage que Salomon, parce qu'il est lui-même Dieu. Ainsi, plus on lit la parole, plus on s'attache à la parole, plus on l'applique, plus on ressemble à Christ, plus on grandit en sagesse, plus on est transformé de gloire en gloire par l'Esprit Saint. On devrait poursuivre la sagesse comme on poursuit un trésor. Je vous ai déjà parlé de ce pasteur qui disait que pendant toute l'année, il lisait un livre biblique, peu importe lequel, mais qu'en parallèle, il relisait les proverbes toute l'année, tout le temps, tous les ans. Il relit en continu les proverbes parce qu'il disait « je veux gagner en sagesse ». La connaissance et l'application de la sagesse, ça touche les valeurs morales et ça donne leur vraie valeur aux femmes. C'est en grandissant en sagesse que vous serez toujours plus proche de ce que Dieu veut pour vous, mesdames. Et c'est possible, c'est accessible. Ce n'est pas un piège que Dieu vous tend, ce n'est pas un leurre. Dieu ne fait pas semblant que c'est possible d'être comme ça. C'est possible. Le poème de la femme de valeur, ça nous dit que, eh bien, la femme de valeur, elle a bien plus de prix que les coraux, que les pierres précieuses. Parce qu'elle est généreuse envers ceux qui n'ont rien. Elle tend les bras aux pauvres. Elle fait du bien à ceux qui ne peuvent rien faire pour elle, de manière totalement désintéressée. La force et une grande dignité lui servent de parure. Ce qui la rend belle, ce n'est pas les attraits extérieurs, ce n'est pas ses habits, ce n'est pas son maquillage, ou ce n'est pas son visage, son bronzage ou quoi. Hein. Ce qui la rend belle, ce ne sont pas les attraits extérieurs, mais ce sont ses qualités morales. C'est ça qui fait de cette femme une femme qui a de la valeur. Ce sont ses qualités morales transformées par le Saint-Esprit. Ses qualités morales, c'est le fruit de la sagesse appliquée à sa vie. Des fois, ça fait bondir les jeunes filles quand je raconte que quand je me suis intéressé à Chantal, je n'ai pas réalisé tout de suite qu'elle était belle. Bien entendu, je n'étais pas tout à fait niais ni aveugle. Hein. Je voyais bien qu'elle n'avait pas une tête de râteau. Mais ce qui m'a intéressé en premier chez elle, ce n'est pas l'aspect extérieur. Ce qui m'a touché, c'était la grande disponibilité qu'elle avait pour les autres. Et je me suis rappelé les paroles de ma mère. Et je me suis dit que Chantal ressemblait à la personne dont ma mère me parlait. Ah, bien sûr, je trouve ma femme belle. Hein. Attention. Hein. Je ne veux pas que vous pensiez que je trouve ma femme moche. Hein. Mais c'est plus tard que j'ai ouvert les yeux sur ça. Ça peut paraître bête. Hein, et je peux comprendre que de l'entendre comme ça, ça peut paraître un peu ridicule. Hein. Mais la première chose qui m'a intéressé, qui m'a attiré chez Chantal, c'était sa capacité à être disponible pour les gens. Et quand on fait l'Institut biblique, avoir du temps pour les autres, c'est compliqué. Mais elle savait en prendre. Et je savais que si elle savait en prendre à ce moment-là, elle saurait en prendre plus tard. La femme de valeur a de la valeur parce qu'elle a des paroles pleines de sagesse. Elle dispense avec bonté l'enseignement. La sagesse et la bonté, ce sont des signes de croissance spirituelle avec le Seigneur. L'amabilité, la bonté, la douceur, parmi d'autres choses, font partie du fruit produit en nous par l'Esprit, d'après ce que Paul dit aux Galates, chapitre 5, au verset 22. Une femme comme la femme de valeur, c'est une femme en qui le Saint-Esprit produit le fruit qu'il doit produire dans la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. La vraie valeur, ça ne se résume pas à l'aspect extérieur, ça ne se résume pas à la beauté physique. Et la fin du proverbe nous dit « la grâce, elle est décevante ». Et la beauté, elle est fugace. Ça passe. Le proverbe ne dit pas la beauté, c'est inutile, ça ne sert à rien. Hein. Il dit juste c'est fugace. Il ne faut pas s'attacher à ça en tant que tel. Parce que notre épouse, elle va vieillir. Et messieurs, désolé, spoiler, mais on va vieillir aussi. Hein. Ça ne sert à rien, entre guillemets, de simplement s'attacher à quelqu'un parce qu'elle nous plaît physiquement. Ce n'est pas ça qui fait sa valeur. Ce qui fait sa valeur, c'est la sagesse qu'elle applique à sa vie et qui la transforme. On est appelé à fonder notre amour et notre attachement, pas simplement à l'aspect physique, mais à aller plus loin que ça et à regarder aux choses qu'on ne peut pas voir directement avec nos yeux. La vraie valeur, c'est une sainte et saine crainte de l'Éternel. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Celle qui veut faire sa volonté, qui veut se laisser former et transformer par lui, c'est une femme qui a de la valeur. Et mesdames, vous pouvez devenir ce genre de femme, je suis sûr que vous le devenez déjà, mais le Seigneur veut vous aider et vous soutenir pour que vous continuiez à le devenir. Et ce, jusqu'à ce que nous soyons auprès du Seigneur. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation aujourd'hui, le Seigneur veut, par son Esprit Saint, vous rendre telle que cette femme de valeur est. Et vous avez de la valeur à ses yeux. Parce que vous êtes ses enfants, parce que vous êtes ses créatures, parce que vous lui appartenez. Votre valeur à ses yeux ne dépend pas aujourd'hui de votre travail, de vos qualifications, de ce que vous ramenez dans votre foyer comme argent. Votre valeur aux yeux de Dieu dépend du fait que vous êtes ses enfants, que vous lui appartenez, qu'il vous aime et qu'il veut vous faire progresser. Pour qu'un jour, eh bien, votre époux puisse dire « Il y a beaucoup de filles qui ont de la valeur, mais toi, tu les surpasses toutes ». Du coup, j'aimerais lancer un défi à chacun d'entre nous aujourd'hui pour terminer. Parce qu'entendre une prédication, partir et dire « Merci, tu as bien prêché », ça n'a guère de valeur si ça ne vous encourage pas à vous changer quelque chose dans votre vie. Alors pour les jeunes femmes qui souhaiteraient se marier et pour les épouses qui sont aujourd'hui déjà mariées, Je vous encourage à rechercher ardemment à devenir une femme de valeur telle que celle du poème de Proverbe 31. C'est possible et c'est faisable. C'est atteignable. Le Seigneur ne fait pas des pièges en donnant des textes dans l'Écriture. Il ne fait pas croire que peut-être tu pourrais être comme ça, mais en fait non, tu n'es pas capable. Par vous-même, vous n'êtes pas capable, mais avec l'aide du Seigneur, vous pouvez le devenir. Et le Seigneur vous accordera son aide si vous le lui demandez, parce qu'il veut que vous soyez comme cela. Ce texte, c'est un encouragement à rechercher la sagesse et à vivre selon elle. Et Dieu ne vous laisse pas seul dans cette recherche. Dans sa grâce, il nous a unis à lui par la mort et la résurrection de Christ. Son esprit qui vit en nous nous permet chaque jour, à chaque femme, à chacune d'entre vous, de progresser en sagesse pour devenir toujours plus des femmes de valeur. Vous ne vous battez pas toute seule, entre guillemets. Dieu vous soutient. Dieu a déjà commencé à faire de vous une femme de valeur le jour où vous vous êtes convertie et où vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Dieu a commencé cette œuvre de transformation en femme de valeur et il l'amènera jusqu'au bout. Vous avez déjà de la valeur aux yeux de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour avoir de la valeur. Vous pouvez être une femme de valeur aussi si vous n'êtes pas marié. Recherchez vraiment ardemment à devenir une femme de valeur et demandez Dieu de vous aider à cela et il le fera parce qu'il le veut. Pour nous autres qui sommes mariés, eh bien messieurs, je nous encourage à apprendre à regarder notre épouse avec un regard juste, à avoir une appréciation qui soit correcte, que nous puissions la voir à sa juste valeur. Et je pense que nous avons besoin que Dieu renouvelle notre regard et renouvelle la manière dont nous considérons notre épouse pour la voir à sa juste valeur. Qu'est-ce que c'est, entre guillemets, les critères que je mets pour donner de la valeur à mon épouse ? Est-ce que ça dépend du nombre de fois où elle a grillé ou non les lentilles ? Est-ce que ça dépend de tout le travail qu'elle a fait dans la maison ? Est-ce que ça dépend de ceci ou de cela ? Que le Seigneur renouvelle la manière dont on regarde nos épouses pour qu'on puisse vraiment les voir à leur juste valeur. Reconnaissons que sa valeur, elle ne dépend pas simplement de son charme ou de sa beauté extérieure, mais que ça dépend surtout de sa relation avec Dieu et de la façon dont Dieu fait grandir en elle la sagesse. Apprenons à exprimer clairement à notre épouse l'amour qu'on a pour elle et le soutien qu'on veut lui apporter dans la vie de tous les jours. Comme je ne suis pas toujours très doué à l'oral avec Chantal, hier je lui ai écrit une lettre, je l'ai déposée, elle l'a lue ce matin. Je ne le dis pas encore une fois pour me lancer des fleurs ou quoi. Simplement, je crois que c'est nécessaire si je veux que mon couple aille bien, si je veux que mon ministère à l'église aussi aille bien, que Chantal sache aussi ce que je pense d'elle, comment je la considère, que je suis là pour elle, que je suis disponible. Ce n'est pas dans mon caractère quelque chose de naturel de faire ça. J'ai besoin d'apprendre à le faire. Parce que moi, j'ai l'impression que par les choses que je fais, je lui montre déjà que j'ai de l'amour. Mais j'apprends à parler la manière dont Chantal a besoin que j'apprenne à parler avec elle. Et je vous encourage à faire la même chose, messieurs. Vous n'êtes peut-être pas doués pour écrire ou quoi, mais demandez au Seigneur comment est-ce que je peux dire à mon épouse ce que je pense vraiment d'elle. Comment je peux l'encourager, comment je peux lui faire du bien. Le mari, ici, il a une part active. Il raconte aux autres combien sa femme, elle est bonne envers lui. Récemment, j'étais dans le RER et j'entendais deux femmes qui discutaient à propos de leur mari. J'étais là genre, c'est catastrophique. C'est tellement triste d'entendre des épouses parler comme ça de leur mari. Et vice-versa. Hein. Qu'on soit pas comme ça, messieurs. Mais qu'on soit comme l'homme du poème. Qu'on soit comme le roi Lemuel est appelé à être. Des personnes qui faisons l'éloge de notre épouse parce que nous savons reconnaître sa vraie valeur. Pour les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, mais qui voudraient se marier, eh bien, je vous encourage à prier sans relâche pour que le Seigneur vous accorde une épouse qui soit sage et qui veuille progresser dans la sagesse. J'ai commencé à prier pour ma future épouse et mes futurs enfants quand j'avais 19 ans. J'ai commencé tôt parce que je me suis dit que je ne pouvais pas perdre mon temps en priant pour la personne avec qui je passerai le reste de ma vie. Et je vous encourage aussi à prier maintenant, même si vous ne connaissez pas la personne avec qui vous allez vous marier, il y a quand même 99,99% de chances qu'elle existe aujourd'hui. Et du coup, priez pour elle. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble et c'est peut-être pas plus mal comme ça, ça ne va pas du tout diriger vos prières ou quoi. Vous allez être attaché à elle parce que vous allez l'aimer. Priez pour elle, parce que là où elle est aujourd'hui, elle a besoin de ses prières. Priez pour que le Seigneur vous donne une épouse qui a de la sagesse et que Dieu vous remplisse vous aussi de sagesse. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce que je peux faire pour trouver une épouse qui soit consacrée à Dieu ? Ma réponse, c'est toujours, toi, sois consacré à Dieu. Le Seigneur donnera jamais une épouse consacrée à Dieu ou sage à quelqu'un qui, lui, n'est pas sage ou pas consacré à Dieu. Ça n'aurait aucun sens. Priez pour votre épouse déjà maintenant. Priez pour elle sans relâche. Et je dirais, d'une certaine manière, ne baissez pas vos standards. Et c'est vrai aussi pour les femmes, pour les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées. Parfois, on arrive à un âge et on se dit, ouais, mais maintenant, j'ai tel âge, ça fait tellement longtemps, j'attends depuis si longtemps. Peut-être que Dieu, il n'est pas capable de me donner une épouse qu'il aime. Alors du coup, je vais me marier avec quelqu'un d'autre, quoi. Je vais faire tout seul puisque Dieu n'est pas capable de faire. Tenez bon que Dieu peut vous donner une épouse pleine de sagesse, un époux plein de sagesse, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui veut avancer avec vous et qui veut vous faire avancer. Ne baissez pas, entre guillemets, vos standards quant à la personne avec qui vous souhaitez vous marier. À un moment dans ma vie, j'ai dit au Seigneur, j'enlève de mes prières tout l'aspect physique de la personne avec qui je veux me marier. Je te demande une seule chose, donne-moi une personne qui t'aime et qui voudra m'aider à progresser avec toi. Le Seigneur a répondu. Et en plus, il m'a donné une épouse qui est belle, donc il a fait plus que ce que je lui ai demandé. Ayez confiance que Dieu peut vraiment vous donner celui ou celle qu'il vous faut. Ayez confiance en Dieu. Et il vous donnera un couple béni, une vie de famille bénie. Ayez confiance en Dieu. Rappelez-vous aussi, messieurs, que le charme et la beauté sont des choses passagères. Ils ne sont pas inutiles, on ne peut pas genre dire « moi je m'en fiche ». Non, ce n'est pas ce que la Bible demande. Mais la Bible nous montre que la personne qu'on aime, de toute façon, on la trouve belle. Rappelez-vous que ces choses-là, c'est passager. Et que ce qui va rester, c'est l'attachement à l'Éternel, c'est la sagesse. C'est la manière de vivre avec Dieu. Ça, ça ne va jamais aller en diminuant, ça va toujours aller en grandissant. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous serez beaucoup plus heureux avec une épouse qui va grandir avec le Seigneur qu'avec une épouse qui serait tous les jours un peu plus belle. Demandez à Dieu dans vos prières les choses importantes pour votre future épouse ou votre futur époux. Recherchez et appliquez vous aussi la sagesse dans votre vie. Et Dieu vous donnera quelqu'un qui, elle ou lui aussi, est sage. Et pour finir, un dernier mot pour les enfants. Apprenez à dire merci à votre maman. Pour tout son travail, pour toute son activité à la maison, pour toutes les fois où elle vient vous chercher à l'école ou alors elle vous emmène, pour toutes les fois où vous êtes malade et où elle s'occupe de vous, pour toutes les fois où elle s'occupe de votre linge, où elle s'occupe de préparer vos affaires, où elle vous prépare un repas. Dites-lui merci parce que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il ne faut pas croire que « maman, mais t'es mère au foyer, tu dois le faire ». Votre mère le fait parce qu'elle a de l'amour pour vous et parce qu'elle veut obéir à Dieu. Mais ça ne dispense pas de dire merci pour ça. Apprenez aussi à lui dire que vous l'aimez. Je sais que quand on atteint un certain niveau d'âge et qu'on est un garçon, c'est plus gênant de dire à sa mère qu'on l'aime. Mais moi qui ne peux plus lui dire maintenant, je regrette les fois où je ne l'ai pas fait. Et j'aimerais bien pouvoir le faire maintenant. Et je dirais, apprenez aussi à faire ces choses-là même quand votre mère vous agace, quand elle vous semble pénible, rabat-joie, que vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas. Je ne suis pas encore extrêmement vieux, mais vous savez, on comprend beaucoup plus de choses que ce que vous imaginez de ce que vous vivez. Parce que, on est passé par là aussi avant. On est capable de comprendre. Aimez votre mère en tout temps. Donnez-lui de l'affection et passez du temps avec elle. Moi, j'ai commencé à passer du temps avec ma mère la dernière année avant qu'elle décède. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec avant. Je n'avais pas une mauvaise relation avec elle, mais c'est juste que ça se développait mieux parce que j'étais plus mûr, plus sage, plus prêt à écouter avant son décès que les années d'avant. Priez pour elle, parce que votre maman, c'est un être humain normal. Désolé, Je sais qu'on voit toujours nos mamans un peu comme des super-héros, mais c'est un être humain normal. qui a besoin qu'on prie pour elle, qui a besoin qu'on l'encourage, qui a besoin qu'on lui dise ben, « ce que tu as fait, c'était bien ». Voilà, j'avais un défi un peu pour chacun d'entre nous. Et puis un que je n'ai pas noté, mais que j'ai mentionné tout à l'heure, pour vous, mesdames, qui êtes plus avancées que nous autres en sagesse, parce que vous avez plus d'années de conversion, encouragez vos jeunes sœurs à vivre comme le Seigneur veut qu'elles vivent. Parce que ce sera bon pour elles, ce sera bon pour leur mari, pour leur famille, et ce sera aussi bon pour l'Église. Je vais simplement prier encore pour remettre chacun d'entre nous entre les mains du Seigneur, et que le Seigneur puisse vraiment faire grandir cette sagesse dans la vie de nos sœurs, de notre épouse, de notre future épouse, et que nous puissions chacun avoir avec notre mère ou notre épouse, notre sœur, la relation que Dieu veut que nous ayons. Père éternel, je te remercie parce que les plans, les projets que tu as pour nous en matière de mariage et de vie personnelle, c'est des projets extraordinairement merveilleux. Tu veux foncièrement notre bien. Tu veux nous bénir et tu veux nous bénir au travers de notre relation avec notre époux, notre épouse, nos enfants. Je te remercie de ce poème qui, c'est vrai, parfois peut peut-être paraître un peu décourageant parce qu'on peut se dire, mais c'est impossible d'atteindre un tel niveau. Tout seul, ce n'est pas possible. Mais je te remercie parce que ce texte, il est encourageant pour nos sœurs, parce que ça leur montre que ton désir, c'est qu'elles puissent être comme ça. Et surtout, eh bien, nous savons que toi, tu rends chacun d'entre nous capable d'être ce que tu veux que nous soyons. Et je te prie vraiment pour que chacune de mes sœurs puisse être encouragée, que chacune de mes sœurs puisse se dire, eh bien, moi, je veux être comme ça. Je veux devenir cette personne-là. Je veux rechercher la sagesse toujours plus. Je veux travailler à ça. Je suis prête à faire des efforts. Je suis prête à vraiment te rechercher, Seigneur, pour devenir comme ça. Aide-moi. Et je sais que toi, tu répondras si mes sœurs te demandent d'avoir cette aide, ce secours de ta part. Je te prie pour nous aussi, en tant que mari, pour qu'on puisse avoir une appréciation juste de notre épouse, de qui elle est, de ce qu'elle fait. Je te prie vraiment, Père éternel, pour qu'on puisse se rendre compte que le mariage, c'est une bénédiction pour nous. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur et c'est une grâce que tu lui fais. Alors que nous puissions vraiment vivre aussi une relation époux-épouse qui soit bénie par toi et que nous puissions être une bénédiction pour notre épouse. Je te prie aussi pour que les enfants ici, qu'ils soient petits, moyens, grands, très grands, déjà des adultes, eh bien, qu'ils puissent encore apprendre à montrer leur amour à leur mère, à la remercier, à l'encourager, à prier pour elle. Notre maman, elle fait tellement pour nous, Seigneur. Elle a fait tellement pour nous. Ben, que simplement, aujourd'hui, on puisse lui montrer qu'on voit toutes ces choses, qu'on est reconnaissant, qu'on l'aime et qu'on veut vraiment lui dire merci pour tout ça. Je te prie aussi pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui voudraient se marier pour qu'ils ne baissent pas leurs standards de ce qu'ils attendent de l'époux ou de l'épouse que tu vas leur donner. Mais qui puisse te dire, ben moi je veux quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui marche avec toi, quelqu'un qui veut grandir en sagesse. Et toi tu leur donneras parce que ton désir c'est que tes enfants puissent être heureux et épanouis dans leur vie de couple. Je te prie aussi pour tous ceux qui se posent des questions, Seigneur, sur l'équilibre entre vie à la maison et vie professionnelle. Je te prie pour que tu donnes à chacun la sagesse nécessaire. Les situations sont sans doute toutes différentes et toi tu as une réponse pour chacun d'entre nous. Je te prie simplement que chacun puisse avoir cette honnêteté de te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est bien ? Ou est-ce que tu veux autre chose ? Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous bénis, Chantal et moi, vraiment dans cette décision qu'on a prise. Tu pourvois nos besoins, tu prends soin de nous, tu nous renouvelles, tu nous bénis. Et si tu le fais pour nous, tu peux tout à fait le faire aussi pour tous les frères et sœurs qui sont ici. Je te prie simplement, Seigneur, que chacun puisse vraiment te rechercher et recevoir de toi ce que tu veux donner, Seigneur. Tu es un Père qui nous aime, tu connais nos besoins, tu veux y répondre, et je te prie vraiment que tu accompagnes nos sœurs sur le chemin de la sagesse, pour que nous aussi, lorsque nous les regarderons, nous puissions dire, eh bien, oui, toi, mon épouse, je peux te dire que tu as plus de valeur que toutes les autres. Même si elles ont aussi de la valeur, toi, tu les surpasses toutes. Amen. Merci.